L'un des personnages de Patrick Hudlin se targue de posséder une vision du monde, comme un prisme, et puis tout passe au travers. Il ajoute, pour certains, c'est le rock, une attitude de dandy, un engagement politique. Il faut quelque chose, en tout cas, pour voir au travers, une grille de lecture. Alors celle-ci, elle est peut-être terrible, d'accord, mais grâce à elle, au moins, j'ai trouvé mes marques, dans tous les sens du terme. De telles remarques revêtent une qualité éminemment métatextuelle, car l'œuvre au complet de l'auteur, si elle n'a pas toujours pour sujet immédiat le rock, n'en est pas moins traversée de références constantes à celui-ci. Comme le précise par ailleurs la narration du roman, oui, tout se tenait, comme le rock. C'était un ésotérisme à déchiffrer avec gourmandise, initiatique et exigeant. Tout cela lui offrait une légitimité, un fil conducteur, une culture, en fait. Si l'œuvre d'Hudlin marie constamment culture rock et attitude de dandy, elle ne fait pas pour autant preuve d'un engagement politique. Ceci est bien davantage le cas chez Virginie Despentes, autre auteure contemporaine à qui les remarques métatextuelles d'Hudlin peuvent aisément s'appliquer. Je propose donc de comparer ici ces deux visions du monde rock, qui se déclinent l'une dans le sens d'un néo-dandisme, l'autre dans celui du militantisme et de la revendication. La comparaison entre les deux auteurs sera facilitée par le fait que, lorsqu'ils évoquent la question du rock, tous deux témoignent d'une forte prédilection pour le sous-genre du punk, lequel en vient à informer l'entièreté de leur démarche. Tout d'abord, force est de constater que Hudlin et Despentes ne parlent du punk rock qu'au passé. Si leurs personnages peuvent écouter des disques ou citer des groupes dans le présent de l'intrigue, ceux-ci sont toujours datés, renvoyant à un état antérieur de leur existence. Le rock a ainsi pour qualité de coller à un instant révolu, qu'il rappelle et définit tout à la fois. De manière révélatrice et quelque peu cliché, les auteurs évoquent à cet égard la recherche du temps perdu. Chez Hudlin, il est question d'écouter de proustienne Madeleine en glorieuse mono, alors que chez Despentes, telle la Madeleine de Proust de base, 1969 faisait défiler visage, décor, ambiance. Ce décalage temporel a pour conséquence que les textes évoquent moins le rock en tant que tel, c'est-à-dire comme pratique artistique vivante ou comme mode de socialisation actif, que ce qu'il représente, ou plutôt a pu représenter. Les romans oscillent ainsi entre le point de vue nostalgique du fan vieillissant ou du musicien dépassé et la perspective socio-historique du commentateur culturel érudit qui ne peut que reconnaître la péremption de son corpus privilégié. C'est toujours mieux avant, forcément, pontifie dès lors la narration hudlinienne. Il en résulte que dans les romans d'Hudlin et de Despentes, le rock, et tout particulièrement le punk rock, se fait idéal perdu, dont le souvenir ou l'esprit demeure crucial au personnage pour faire face au présent. C'est en ce sens que le rock peut se faire vision du monde, revêtant moins la fonction d'offrir une interprétation cohérente de l'univers social que d'en dévoiler certains dysfonctionnements en les confrontant à un imaginaire spécialisé, une conception idéalisée de l'existence. Comme le résume pragmatiquement Despentes, soit tu t'es trompé quand tu écoutais Slayer à 20 ans, soit tu te trompes de vie aujourd'hui. Si Hudlin et Despentes font preuve d'un même regard rétrospectif sur les phénomènes musicaux évoqués dans leur œuvre, ils ne partagent pas pour autant la même définition du punk. Hudlin, né en 54, a connu la première vague du mouvement, où des groupes précurseurs comme les Stooges, le MC5 ou le Velvet Underground ont ouvert la voie aux Ramones, Television, Damned, Clash et autres Sex Pistols. Il a lui-même été, à la fin des années 70, chanteur de l'éphémère Asphalt Jungle, l'une des premières formations punk hexagonales. Sa vision de la chose est conséquemment nimbée de drogue dure, dont il a été lui-même victime, de provocations flamboyantes mais creuses, et surtout d'une propension constante à mythologiser le quotidien. Despentes, née en 69, est quant à elle contemporaine du mouvement alternatif français, où le No Future de la première heure cède le pas à la narco-punk d'OTH, de N-Brigade, et surtout de Berrurier Noir. Elle s'est depuis rapprochée de ces derniers et a contribué un texte à leur biographie autorisée. Sa conception du punk est dès lors plus positive que celle d'Hudlin, davantage ancrée dans des considérations sociopolitiques, si ce n'est un appel à l'action citoyenne. Cet horizon de référence divergent, qui renvoie à des états socio-historiques distincts du mouvement punk, explique la dichotomie entre dandisme et engagement politique observable dans la vision du monde rock des deux auteurs. Pour Hudlin, cette culture musicale représente un vecteur d'évasion, une possibilité de fuir momentanément et maladroitement le réel. Punk, cela avait été de grands mots, à faire rêver sur les disques, mais au quotidien de petites choses guère glorieuses, parce qu'il ne pouvait en être autrement, que la vie était ainsi, un bricolage, avec les moyens du bord. Pour Despentes, il s'agit au contraire d'un appel à se braquer contre la collectivité, d'en souligner les travers et déficiences. Le punk rock était le premier constat de l'échec du monde d'après-guerre, dénonciation de son hypocrisie, de son incapacité à confronter ses vieux démons. Cet écart de perspective influe bien évidemment sur l'écriture et sur la finalité de leurs œuvres respectives. Patrick Hudlin a été, comme on l'a vu, musicien. Il est également critique de rock, activité pour laquelle il est d'ailleurs bien davantage connu que pour ses romans. Cette double expérience se traduit dans sa manière d'écrire le punk. Rue des Martyrs, dont l'intrigue est calquée ouvertement sur la vie et la disparition mystérieuse du chanteur français Alain Camp, décrit comme suit un enregistrement réalisé par le personnage principal. Il avait enregistré ce disque chez Motors fin 76. Un simple 45 tours, bidouillé à l'arrache, déréglé. C'est de voir Gudule qui lui avait donné l'idée, depuis qu'elle s'était enfoncée dans la poudre, elle n'avait plus ses règles. Elle ne semblait ne plus rien ressentir. Et donc il avait écrit ce déréglé, pour lui, un machin sur deux accords, avec une voix saturée et une batterie d'automate, avec derrière un synthé bricolé comme une sirène de police qui ululait dans le lointain. Cela pouvait évoquer certaines expériences de Bowie ou le Velvet de Lou Reed. Il avait donc sauté de plein pied dans le rock le plus underground, comme on se noie, comme s'il voulait se racheter de toutes les couleuvres avalées, de ces disques de variété qu'il avait commis pour lui comme pour les autres. Il en avait vendu 3, mais il s'était assuré le respect des jeunes punks. On note l'approche informée, à la fois historique et technique de l'auteur. D'une part, il décrit plutôt bien, du moins par rapport au poncif du genre, les composantes du morceau en question. De l'autre, il situe les résultats dans un champ esthétique plus vaste. De ce point de vue, le rock se fait véritablement culture. Virginie Despentes part quant à elle de son expérience adolescente de fan de musique. À l'instar d'Hudlin, elle évoque ce qui fait l'intérêt des morceaux évoqués. Écoutez, contrairement à lui, elle insiste moins sur leur fabrication ou leur inscription dans l'histoire du rock, mettant plutôt l'accent, ce qui est conséquent vu la perspective de laquelle elle écrit, sur les effets ressentis par l'auditeur. Bye Bye Blondie, ici ouvertement autobiographique d'un internement forcé en aile psychiatrique, évoque ainsi un titre de Berrurier Noir, consacré justement à la contention médicale et aux camisoles chimiques. Arrivée chez elle, heureusement il n'y avait personne, elle s'était roulée en boule dans un coin, et là, fausse bonne idée ou vraie complaisance, elle avait mis Nada, le 45 tours des Berrues, sur sa platine. C'était de vieux tourne-disques, il suffisait de mettre le bras en position haute pour que le disque se remette tout seul au début, ad libitum. Jusqu'à ce que la nuit tombe, que ses parents rentrent du travail, Nada, en boucle, pointe pénétrant le cerveau, les viscères, le moindre globule blanc, pour le charger de peur, de colère rentrée et de haine. Le roman précise au sujet du groupe quelques pages plus loin, « Cette musique qu'elle écoutait en boucle depuis plusieurs années avait deux effets contradictoires. Un soulagement extraordinaire, défoulement et soulagement. Et dans le même temps, ça appelait une angoisse extraordinaire sans la résoudre. Ça parlait de ça, être enfermé, être terrorisé, être dans le noir. » On constate d'une part le regard rétrospectif porté par l'auteur sur ce qu'elle a pu être et ce qu'elle a pu sentir à l'écoute de certains morceaux fétiches. On constate d'autre part une volonté, opposée à celle d'Hudlin, de lier le rock à des sujets d'envergure et non pas de simples histoires de dope, d'en faire non pas un objet d'esthétique trash, mais l'expression fut-elle allégorique d'une critique sociale. Cette disparité observable entre Hudlin et Despentes dans l'évocation du rock a des répercussions à la fois dans l'écriture, au sens large, et la finalité de leurs œuvres. On peut même avancer que de ce point de vue, ce qui est dit du rock revêt une dimension métatextuelle. Pour Hudlin, le punk est, comme on l'a vu, un avatar contemporain du dandisme. La flamboyance de la première vague du mouvement, où les codes ne sont pas encore figés et font preuve d'une certaine inventivité, représente pour lui un détournement esthétique significatif, une révolte par le style. Ceci se traduit dans ses textes par un souci du détail, que ce soit pour décrire des personnages, leur environnement ou des pochettes de disques et des prestations scéniques, que ne renierait pas un George Pérec ou surtout un Bret Easton Ellis. Pour Hudlin, le punk est également, comme on l'a vu là encore, un jalon significatif dans l'évolution de la contre-culture occidentale. Étant de la génération qui a vu le mouvement se créer de toutes pièces, il est conscient des origines et influences de celui-ci. Ceci se manifeste dans son œuvre par un constant name-dropping de musiciens des années 70 et de leurs prédécesseurs pop des années 60, mais aussi en ratissant plus large d'écrivains et d'artistes, des romantiques aux surréalistes et aux mouvements beat, qui ont fait preuve d'une provocation similaire. Une telle remise en contexte historique et érudite, si elle situe bien l'esprit punk dans un imaginaire plus vaste, a pour effet, du fait que toutes les références convoquées sont issues du passé, de souligner encore davantage que le punk, selon Hudlin, est une valeur qui n'a plus cours dans le monde actuel. L'auteur cumule à ce sujet les références lettrées pour exprimer son sentiment de décalage. Les pochettes de disques de sa jeunesse se font ainsi autant de portraits de Dorian Gray, autant d'images parfaites qui, si elles ne vieillissaient pas, ou il s'enlisait comme tant d'autres. Dans un même ordre d'idée, il constate que le drame du vampire, le prix de sa survie, c'est de voir les modes de sa jeunesse, les choses de son temps, tout ce à quoi il tient, disparaître inexorablement. La solitude qu'il étreint alors devant ce monde nouveau qu'il ne connaît plus, qu'il ne reconnaît plus, est sa punition. Il rattache dès lors son activité d'écrivain à la figure par excellence du poète. il était Orphée, revenu du monde perdu, et qui raconte. Ce repli nostalgique dans l'esthétisme et la mémoire, en guise de réaction à un univers extérieur estimé souillé ou hostile, fait de la production d'Udeline une forme actualisée du roman dit « célibataire » ou « fin de siècle ». L'auteur fait d'ailleurs référence dans presque tous ses textes à l'aphorisme d'Oscar Wilde observant que « on est tous dans le caniveau, mais certains regardent vers les étoiles ». Ce paradoxal mélange de trash et d'élégance, le tout teinté d'une nostalgie tenace, se manifeste de manière emblématique dans le passage suivant. Habit rouge de Guerlain, une odeur qui paradoxalement lui rappelait le punk rock, les amphétamines de cette époque, Captagon, Fringanor et Dinantel, et la sueur des petits matins en descente, avec des images d'étreintes sauvages et tremblantes sonnées par l'alcool. Habit rouge. On avait trouvé un de ses amis morts, baignant dans les flaques de son sang mélangé à ce parfum, échappé d'une bouteille cassée. Oui, habit rouge, un parfum punk. De ce fait, l'exil intérieur, alimenté d'un juste mélange de dope et de souvenirs, des personnages d'Udeline prolonge, au tournant du millénaire, la réclusion contemplative et désabusée d'un des esseintes. Pour Despentes, le punk est, comme on l'a vu, une prise de position politique. Les groupes qu'elle affectionne, contrairement à ceux prisés par Udeline qui rejoue éternellement le rôle du rebelle sans cause, invitent leurs auditeurs à se mobiliser avant que, comme le disaient les Berruriers noirs, tout ne soit perdu. Ceci se manifeste dans son œuvre par l'exploration de thèmes durs comme le viol, la prostitution, l'exploitation socio-économique, la précarité ou la manipulation des masses par une culture préfabriquée et insignifiante. Pour Despentes, le punk est également, là encore comme on l'a vu, un révélateur privilégié de l'angoisse. Alors que Udeline met l'accent sur la dimension initiatique du rock, la face cachée qu'il dévoile à des happy few triés sur le volet, elle revient constamment sur l'exutoire que cette musique peut offrir aux unhappy many, sur la momentanée catharsis à leur être ainsi permise. Ceci se manifeste de manière plus générale dans ses textes par un constant souci du sentiment d'oppression ou de panique que peuvent ressentir les personnages dans des situations souvent banales du quotidien et les réactions violentes qui, plus souvent qu'autrement, en découlent. Une telle dénonciation à la fois des dysfonctionnements de la société et des effets psychologiques induits par ceux-ci chez les individus les plus vulnérables fait du punk chez Despentes une rare valeur positive à opposer à la déroute ambiante. Alors que les personnages d'Udeline constatent la péremption de la culture de leur jeunesse et s'abîment dans une nostalgie opiacée, ceux de Despentes, ils constatent également un clash entre ce à quoi ils ont cru et ce que le monde peut désormais leur offrir, n'entendent pas moins de vivre autrement en faisant de leur credo punk passé un paradoxal mode d'emploi. La description suivante d'une roqueuse vieillissante, qui garde la tête haute en dépit de l'adversité, ne va pas sans rappeler la démarche d'écriture de Despentes et ce qui se dégage en général de ses textes. Elle était un pur produit de l'aristocratie punk rock, mal née, fauchée, survivant de boulot pathétique, habitant dans les pires quartiers, mais s'écorchant les lèvres s'il fallait s'adresser à quelqu'un qu'elle n'aimait pas. Et il y en avait à foison des gens qu'elle n'aimait pas. Soumise à un protocole sévère et complexe, elle se déchirait la panse dès qu'il s'agissait de se faire conciliante pour gratter un peu de thune. Elle avait ce sens du dérisoire, une dignité de vieux pirate, et elle mettait un point d'honneur à être droite, avoir une parole, garder la tête haute, le sens de l'amitié, savant dosage de virilité nippone et de raffinement viking. Elle avait ce réflexe à chaque proposition de la renverser pour la considérer à l'envers et en tirer le bon mot. Ainsi considéré, le punk est moins un repli nostalgique d'esthète déçue qu'un sursaut de dignité salutaire dans un monde en déroute. Cette critique en règle de la société et ce souci de l'équilibre psychologique de l'individu qui évolue font de l'écriture de Despentes une forme contemporaine du réalisme, tel qu'il se définit au 19e siècle, ou plutôt de sa variante naturaliste, si l'on comprend celle-ci comme une prise en compte à la fois du social et du biologique. Ce constat est plutôt banal dans la mesure où la forme romanesque mise en place par Flaubert, Maupassant et Zola demeure à bien des égards l'horizon indépassable de la littérature d'aujourd'hui. Il met toutefois l'accent sur la résistance esthétique que peut constituer la prose de l'auteur, laquelle adopte souvent le point de vue le plus cru et brutal possible, histoire, imagine-t-on, de sortir le lecteur de son confort et son indifférence. L'exemple emblématique de cette démarche se situe dans les premiers romans despentiens, où s'accumulent les scènes pornographiques à l'encontre de toute bienséance. Et d'ailleurs, à noter que ces vignettes trash s'accompagnent presque toujours d'une bande sonore tirée du rock alternatif des années 90. Mais comme tout ceci est le sujet de communication de Véronique, je ne m'attarderai pas là-dessus. Un autre exemple révélateur de par le clin d'œil qu'il fait des préoccupations sociales passées, de la démarche réaliste ou naturaliste de Despentes, se trouve dans la description initiale qu'elle fait de son dernier anti-héros romanesque, Vernon Subutex. Il avait été disquaire entre 20 et 45 ans. Dans son domaine, les offres d'emploi étaient plus rares que s'il avait travaillé dans le charbon. À la lumière de ce qui précède, il est difficile de ne pas voir, dans cette association inusitée entre le rock et la mine, une référence tongue-in-cheek à des modèles antérieurs à émuler et prolonger. La question se pose toutefois, tout ceci a-t-il le moindre intérêt pour un lecteur qui ne serait pas un fan fini de rock, il ne serait dès lors pas particulièrement sensible au vaste réseau interdiscursif qui sous-tend ces textes. Pour ma part, j'avoue trouver ces récits intéressants, en dépit de leurs multiples insuffisances, pour le portrait empathique qu'ils offrent de punks vieillissants, lesquels n'arrivent pas toujours à faire coïncider les idéaux de leur jeunesse avec leur situation présente. Ils offrent un portrait convaincant des rescapés du rock, un thème peu abordé, sinon de manière péjorative et caricaturale, en littérature. De manière plus générale, toutefois, force est de constater que la déroute des personnages d'Udeline et de Dépente résonne avec un naufrage social plus vaste. Pour les protagonistes d'Udeline, le point de rupture est généralement le tournant des années 80. Il s'agit, d'une part, de l'époque où le sida commença à faire des ravages parmi les junkies. Il avait vu son entourage tomber comme à Verdun. Sa jeunesse, désormais, c'était un monument aux morts. Il s'agit d'autre part du moment où la contre-culture électrique des années 60, après un long déclin dans le champ du synth et le punk rock, cède le pas à sa récupération quasi complète par l'industrie culturelle, qui en fait une forme de divertissement et de spectacle parmi d'autres. Pour les personnages de Dépente issus d'une autre génération, le point tournant se situe plutôt en 1989. Ceci les mène à idéaliser, ou du moins à considérer avec une nostalgie bienveillante, le monde avant la chute du mur, c'est-à-dire avant l'effondrement total de tout. Cette perspective plus vaste, qui n'entre pas forcément en contradiction avec celle d'Udeline, équivaut à une dénonciation de la société néolibérale qui se prétend, en croire Margaret Thatcher ou Francis Fukuyama, sans alternative. En d'autres mots, ce que Udeline dit du rock, Dépente le dit de la société au complet. Cette inscription des deux œuvres dans une réalité socio-historique plus vaste ne va pas sans rappeler une tension récurrente dans la littérature moderne. Udeline, pour sa part, a voué l'entièreté de sa carrière, de musicienne, commentateur et de romancier, à l'impossible quête d'une forme de transcendance électrique. Comme il l'énonce à titre de rock critique, « On ne fait que courir après ça », ce moment parfait où tout prend sens. Le punk rock a commencé par l'exigence, l'idéalisme, parce que certains ne pouvaient se satisfaire du rêve politique, que les 60s avaient ouvert une porte qui s'était refermée, nous laissant au dehors. Son œuvre romanesque s'applique dès lors à fantasmer ce que pourrait être un tel son, pur, sublime, autotélique, bref, à esquisser un rock pour le rock, qui fait écho à l'art pour l'art de jadis. Dépente, quant à elle, cherche, comme on l'a vu, à transposer la virulence critique et l'énergie mobilisatrice du punk à des enjeux contemporains. Comme elle explique en son propre nom dans l'essai King Kong Theory, tout le concept du punk, c'est de ne pas faire comme on vous dit de faire. Fuck you, I won't do what you tell me, hein? Si je ne venais pas du punk rock, j'aurais honte de ce que je suis, pas foutu de convenir à ce point-là. Mais là, je viens du punk rock et je suis fier de ne pas très bien y arriver. Son œuvre s'inscrit dès lors dans la filiation de la littérature engagée, au sens sartrien du terme, dans la mesure où elle cherche à dévoiler des réalités déplaisantes, souvent fondées sur l'expérience, dont le lecteur ne peut en principe plus se sentir innocent. Bref, sous des aspects de récits pour initiés, les textes de ces deux auteurs offrent une perspective originale sur les thèmes éminemment contemporains du dépassement, de l'absence, de l'exclusion et de la perte. Par-delà l'intérêt thématique que peuvent offrir les romans d'Udeline et de Dépente, il n'en reste pas moins que la forme retenue pour ceux-ci ne s'avère pas toujours à la hauteur de l'objet qu'ils se donnent. Le punk rock, quoi qu'on puisse en dire aujourd'hui et peu importe les incarnations prévisibles qu'il a pu prendre par la suite, fut à l'origine l'une des dernières véritables avant-gardes du rock qui exerçait une influence tant musicale que sociale. En d'autres mots, le punk était un sous-genre qui a momentanément assailli le rock de l'intérieur en exacerbant sa forme et en radicalisant son propos. On peut dès lors présumer qu'une littérature qui se revendique d'un tel idéal artistique viendrait elle aussi remettre en question les codes établis. Or, comme on l'a vu, Udeline et Dépente prolonge les sous-genres existants du roman de fin de siècle et du roman réaliste ou naturaliste. On pourrait dire à cet égard qu'Udeline, occupé à préserver le passé, réécrit tout bonnement le type de roman qu'il aimait lire à l'époque. De même, on pourrait avancer que Dépente, dont les visites demeurent plus sociales que littéraires, écrit tout simplement des « romans » tels que le genre se pratique massivement aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que, si leur texte évoque plutôt bien le choc que peut constituer l'écoute adolescente des Sex Pistols ou de Berrurier Noir, ils le font par leur contenu, par ce qu'ils disent, et non par leur forme, par la manière de l'exprimer. Mais bon, ce qui importe ici est peut-être moins la musique elle-même, bien qu'il en soit constamment question, que ce qu'elle représente, la manière dont, comme j'ai pu le postuler en introduction, elle se fait grille de lecture, vision du monde permettant de conférer un surcroît de sens, si dérisoire soit-il, à l'univers. Patrick Udeline semble bien constant de ce paradoxe, faisant notamment énoncer à un narrateur-écrivain que « mon roman est un cliché, j'étais moi-même un cliché, je ne vivais pas dans le vrai monde, je ne construisais rien et même pas une œuvre, un monde en toc, mais hélas, ce monde en toc était le mien. » Virgile Dépente abonde dans le même sens, de manière encore plus ironique ou autodérisoire, en faisant observer de l'un de ses héros que, ces gars du rock, ils risquent à devenir direct sénile sans passer par la case maturité. Vernon, comme d'autres, on sent bien que jamais dans sa vie, il ne s'est posé la moindre question sur rien.